Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Bonjour à toutes et à tous. Nos invités du jour en direct sur France Bleu Creuse. Pascal Ximénez, directrice de cabinet des services de la préfecture de la Creuse. Bruno Sauvage, procureur de la République. Il semblerait que le nombre de personnes contrôlées positives aux stupéfiants au volant de leur véhicule soit de plus en plus nombreuses. Que faut-il en penser? Stupéfiants, taux d'alcoolémie? Vous pouvez aussi nous donner votre avis, poser vos questions, témoigner. Nos invités sont venus aussi vous écouter et échanger avec vous. C'est l'occasion de se parler ce matin, mais aussi de se renseigner parce que je crois qu'il y a quelques vraies fausses vérités qui circulent. Pour intervenir, comme chaque jour, c'est à ce numéro.
05 55 52 37 38.
Pascal Ximénez, Bruno Sauvage, bonjour.
Bonjour.
Et soyez les bienvenus. Bienvenue dans ce dossier du jour qui va peut-être nous permettre de nous arrêter quelques instants sur notre conduite à travers les consommations dangereuses que nous pouvons avoir en ayant le volant. Ce dossier, je vous propose de l'ouvrir tout de suite avec quelques messages laissés sur la page Facebook de France Bleu Creuse et notamment celui de Manon qui nous écrit « Bonjour, je trouve que prendre le volant sous l'emprise de l'alcool, c'est complètement irrespectueux des autres usagers, mais car il y a un mais. J'estime que le gars qui a bu de bière ou de Ricard n'est pas sous à ne pas pouvoir conduire. C'est juste encore une histoire de pognon avec les contrôles d'alcoolémie à tout va. Nous sommes dans l'un des départements les plus contrôlés, juste pour remplir les caisses de l'État, au nom de la sécurité routière. Et les 80, je ne préfère pas en parler. C'est mieux parce qu'il n'en est pas question ce matin, on va rester sur notre sujet du jour. Je ne préfère pas en parler encore et toujours, pognon et toujours au nom de la sécurité depuis le 1er juillet. Vous ne pouvez pas publier la somme d'argent que les contrôles et les radars fixes ont rapporté et normalement d'après le gouvernement, la somme devait aller aux hôpitaux. Qu'en est-il? Qui souhaite répondre au message de Manon? Madame Ximénez, Bruno Sauvage, comme vous voulez.
Moi, je vais peut-être répondre à Manon en faisant la différence. Alors, peut-être qu'elle est un peu trop jeune, mais on se souvient tous d'un message qui disait à l'époque de prévention avec 2 verres, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Alors, tout ça pour dire qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même si aujourd'hui on est plus sur la matière de conduite sous stupéfiants, entre 0,25 et 0,39 mg par litre d'air expiré, c'est une contravention. C'est-à-dire que normalement, à 2 verres, mais des doses normales, bien évidemment celles qui sont servies dans des cafés, non pas celles qu'on pourrait se servir chez soi, 2 verres ne seraient pas pris en état d'alcoolémie. La plupart du temps, ça sera au minimum 3 verres. Même si à 2 verres, et encore une fois, ça dépend les personnes, quelqu'un qui ne boit pas souvent à 2 verres, peut-être qu'il y aura même les mêmes symptômes qu'une personne qui sera en état d'alcoolémie positive, et quelqu'un qui a une accoutumance, pas du tout. En tout cas, seuil qui est différent, contraventionnel entre 0,25 et 0,39, au-delà de 0,39, donc c'est pas une contravention, c'est un délit à partir de 0,40 mg, qui est susceptible, effectivement, d'entraîner 2 ans d'emprisonnement et d'être traduite devant le tribunal correctionnel. Donc, même à 0,25 ou 0,39, on sait très bien que les réflexes, le champ visuel commencent à être réduits et donc on représente un danger pour soi-même et aussi, surtout pour les autres usagers de la route.
Pascal Ximénez, pour la partie du message concernant les beaucoup de contrôles depuis le 1er juillet dans divers domaines au nom de la sécurité, une réaction?
Oui, alors par rapport au contrôle, vous parlez du 1er juillet, donc vous faites peut-être référence aux 80 km, même si c'est pas le sujet.
Manon a voulu dire.
C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, il y aura une communication qui sera faite à un moment précis sur une période qui sera significative pour voir la part effectivement d'augmentation des contrôles. Pour autant, les contrôles sont pas liés aux 80 km. Il y a un plan de contrôle qui est défini chaque année par madame la préfecte avec les forces de sécurité qui se maintiendra. J'ai entendu Manon dire qu'il y avait c'était un des départements où il y avait le plus de contrôle. J'ai aussi exercé dans d'autres départements et la présence des forces de sécurité, gendarmes et police, sont aussi présentes tout le long de l'année et participent. C'est un axe de, on pourrait dire, de répression, mais qui participe à la chute de la mortalité, mais aussi des accidents de la route. Pour revenir sur la question de la consommation excessive de stupéfiants ou d'alcool, Il faut savoir quand même qu'en Creuse, l'identification des causes présumées des accidents, c'est 25% lié à la consommation d'alcool. Et la combinaison alcool et stupéfiants, c'est 3%. Ça concerne la population qui a moins de 25 ans, mais on constate aussi que les plus de 50 ans commencent à être concernés. Et on nous parle de, si je recite bien Manon. On nous parle de pompe à fric.
Pognon.
Oui, de pognon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un discours qui est un petit peu, qui est connu, qui est un petit peu facile. Je peux vous donner un premier chiffre qui est donné par le délégué à sécurité routière, confirmé par le Premier ministre. Les radars, le rapport des infractions des radars, par exemple, ou des infractions au niveau national, rapporte 1 million d'euros et on dépense 3 millions d'euros d'actions de sécurité routière. Donc, les infractions et les infractions pécuniaires ne sont pas là pour venir réduire les déficits de l'État, si c'est ce à quoi on pense. C'est vraiment une action de prévention également, pour bien prendre conscience du risque que l'on prend sur la route lorsqu'on prend la route sous alcool ou sous stupéfiant. Comme l'a rappelé le procureur, ça réduit certaines vigilances, ça réduit les champs de vision et on peut se mettre en danger sur la route. Et j'invite vos auditeurs à venir sur une action de sécurité routière que nous faisons le 26 octobre sur l'aire des Monts de Guéret, où ils pourront prendre conscience et se rendre compte de quelles altérations de nos possibilités nous avons quand nous consommons de l'alcool ou du stupéfiant, avec des petites lunettes qui vous font voir la réduction des champs de vision, les réflexes, etc.
D'ailleurs, cette opération, nous aurons l'occasion de l'évoquer dans un de nos dossiers du jour avec Michel Dubreuil, délégué départemental de la prévention routière. En revanche, Bruno Sauvage, alors, il y a ceux qui connaissent bien le monde des stupéfiants. En revanche, pour tous les autres, c'est pas facile à appréhender parce que on dit taux d'alcoolémie, 7 ans, il faut pas dépasser. Pour les stupéfiants, ça nous échappe un peu plus. En revanche, que nous dit la loi finalement par rapport à ça?
Alors, la loi a évolué, mais tout d'abord, quelques chiffres qui sont quand même importants à connaître, parce que le but de notre intervention aujourd'hui, en tout cas, je pense que c'est prévenir pour ne pas avoir à réprimer. Ça, c'est le premier sujet. Pourquoi on a souhaité intervenir aujourd'hui? Parce qu'on constate effectivement que depuis le début de l'année, dans la Creuse, sur les 8 premiers mois jusqu'à août inclus, il y avait eu, pour la même période de référence l'année dernière, sur les 8 premiers mois, 125 contrôles positifs de stupéfiants. On en est à 188. C'est-à-dire plus 51% sur les 8 premiers mois.
Il y a une explication derrière
ça? Il y en a plusieurs. Premièrement, parce qu'effectivement, la loi a changé, c'est ce que vous me demandez, puisque avant, en étant un peu bref, il fallait une analyse sanguine pour déterminer effectivement si la personne conduisait ou non sous l'emprise de produits stupéfiants. Depuis la loi du 26 janvier 2016, maintenant, il y a un test salivaire. Donc, salivaire qui permet effectivement de détecter si la personne conduit ou non sous l'emprise de produits stupéfiants et si elle demande une contre-analyse, dans ces cas-là, il y aura une analyse sanguine qui sera effectuée. Donc forcément, plus de facilité aussi pour les forces de sécurité intérieure de relever ou de contrôler les personnes sur la route, premier. Et puis je pense qu'il y a aussi, dans la Creuse, une consommation de stupéfiants qui existe et qui est réelle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et là, on en revient. S'il y a effectivement de la consommation de produits stupéfiants, c'est qu'il y a aussi forcément de l'offre derrière. On en est sur un autre débat éventuellement sur l'offre, le trafic de stupéfiants qu'on peut expliquer. En tout cas, la loi dit quoi? Et ça, c'est important pour les auditeurs. C'est 2 ans d'emprisonnement encouru. Et effectivement, la différence entre une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, alcool, comme vous l'avez dit, c'est une question de taux. Mmh. Si on se trouve entre moins de 0,25 par air expiré, il n'y a pas d'infraction. Entre 0,25 et 0,39, c'est une contravention de 4e classe avec une suspension administrative, avec un retrait de points et une amende, etc. Mais si on est au-delà de 0,40, c'est un délit. Pour les stupéfiants, ce n'est pas du tout la même chose. La loi dit quoi? C'est-à-dire que dès l'instant où on conduit en ayant consommé des produits stupéfiants, on est positif. Et l'infraction est pleinement constituée, on n'est pas dans une question de taux. Bien évidemment, par rapport à cette loi du 26 janvier 2016, maintenant, suite à un arrêt de la Cour de cassation, on a déterminé des seuils de détection. C'est-à-dire que le laboratoire doit dire oui ou non si la personne, au moment du contrôle, elle avait consommé des produits stupéfiants. Et il y a eu un arrêté qui est venu déterminer un seuil de détection pour dire, bah, effectivement, là, elle était réellement sous conduite de produits stupéfiants. Mais ce n'est pas une question de taux, c'est oui ou non. Donc dès l'instant où on a consommé des produits stupéfiants, il ne faut pas prendre le volant, parce qu'effectivement on peut avoir consommé une heure avant, on peut avoir consommé la veille ou l'avant-veille, et on sera positif, et l'infraction sera pleinement constituée.
Alors effectivement, vous m'en parliez avant l'entrée dans ce studio. À la différence peut-être de l'alcool, c'est que les stupéfiants restent, je vais dire entre guillemets, dans le corps sur une durée plus importante, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Oui. Et donc c'est ce qu'il faut dire aux gens. Alors déjà, il faut savoir qu'au-delà de conduire sous l'emprise de produits stupéfiants, l'usage de stupéfiants, là aussi on peut dire par rapport à d'autres pays européens où il y a une tolérance ou parfois c'est autorisé, en France l'usage de produits stupéfiants est interdit. On disait souvent un slogan qui était repris tout à l'heure par madame la directrice, c'est boire ou conduire, il faut choisir. Et ben, consommer des stupéfiants et conduire, et ben, il faut choisir. Et au-delà, pour pas être trop long et monopoliser, c'est surtout les conséquences. Et les gens ne connaissent pas les conséquences de la conduite sous produits stupéfiants. Et c'est là qu'au-delà de la peine encourue, 2 ans d'emprisonnement encouru, ce qu'il faut rappeler, c'est surtout, dans la Creuse, département très vaste, je pense que le permis de conduire est pratiquement obligatoire.
Je pense que personne vous dirait le contraire.
Mais le but, c'est de le conserver. Mmh. Alors, si on n'est pas en récidive, il y aura généralement un retrait, une suspension administrative, par la suite, forcément, une réponse pénale, où il y aura une suspension judiciaire avec une amende, le retrait de points en amont. Et là où je préfère prévenir les auditeurs, c'est ceux qui sont en état de récidive. Récidive, ça veut dire quoi ? C'est pas simplement une personne qui a déjà été condamnée pour une conduite sous stup. Le législateur a dit celui qui a été pris sous conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans permis. Et conduite sous stup, ce sont des infractions assimilées. Si la personne a commis cette infraction dans les 5 ans qui précèdent, elle sera en état de récidive. Et là, la loi, c'est là le discours et le message à faire, c'est l'annulation de droit du permis de conduire. C'est-à-dire qu'il y aura beau avoir la meilleure défense possible pour la personne, le juge devra constater l'annulation de droit du permis de conduire. Si la personne était prise, je vais donner un exemple pour être compris aux auditeurs. Il y a 4 ans, elle est prise sous conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Cette année, elle est prise conduite sous stup. Elle sera en état de récidive. C'est-à-dire, elle passera devant le tribunal correctionnel ou par note de mode de poursuite. Et l'annulation sera de droit avec une interdiction de délivrance. Au-delà de la peine, soit d'amende, bien évidemment, ou de la peine de prison. Et aujourd'hui, depuis le début de l'année, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes... Ça fait partie de mes priorités de lutte. La lutte contre l'insécurité routière est une de mes priorités de pilote politique pénale, puisqu'on s'aperçoit que depuis l'année dernière, il y a une hausse d'accidentalité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, il y a des personnes qui ont été incarcérées parce que ce sont des récidivistes de délinquants routiers et qu'effectivement, ils perdent tout. Ils sont incarcérés, ils perdent leur emploi parfois, ils perdent leur permis de conduire. Et on est tous là, je pense, pour sauver des vies et qu'il y ait moins d'accidents.
05 55 52 37 38. Là, je sens bien que vous avez tendu l'oreille. Ben oui, on se connaît bien maintenant. Des questions, des commentaires, des points de vue. D'accord, pas d'accord, je vous le rappelle. Nos invités sont simplement venus échanger avec vous, vous informer, répondre à vos questions. Allez, go !
05 55 52 37 38.
Oh!
sur France Bleu Creuse.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Se parler avant la casse, nos invités du jour, Pascal Ximénez, directrice de cabinet des services de la Creuse, Bruno Sauvage, procureur de la République. Il est question ce matin du fait de consommer des stupéfiants en ayant le volant. D'ailleurs, Bruno Sauvage, stupéfiants, alcool, parfois on retrouve les deux.
Oui, alors parfois sans parler des accidents, parce que je laisserai aussi même la directrice parler peut-être au niveau de la prévention, au niveau des accidents, etc. Mais il y a une combinaison parfois aussi des deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une combinaison de quelqu'un qui a consommé des stupéfiants avec un seuil soit contraventionnel ou délictuel en plus. Et donc la loi là est différente. Au lieu de 2 ans encourus pour une simple conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, le fait de combiner les deux, ça aggrave l'infraction. Donc c'est 3 ans encourus, avec bien évidemment des sanctions plus importantes, et les risques sont encore beaucoup plus importants par rapport à l'acuité ou les compétences même du conducteur.
La priorité à vos appels au 05 55 52 37 38. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Bienvenue.
Voilà, merci beaucoup. Je voulais m'adresser à monsieur le procureur de la République.
Il vous écoute.
Alors, quelqu'un qui possède une voiturette, c'est-à-dire les voitures sans permis, il est pris au volant de cette voiture par les forces de gendarmerie ou de police, quoi. Et savoir quelle serait la sanction. On ne peut pas lui retirer son permis de conduire. Est-ce qu'il n'en a pas?
Bonne question, Jean-Paul. Vous êtes en forme ce matin.
Alors, hein, Jean-Paul, c'est une question très pertinente. Alors, la loi, là aussi, a changé. Parce que, pour revenir un petit peu en arrière, on s'était aperçu à l'époque que, notamment, les multirécidivistes conduisaient avec leur permis. Forcément, leur permis, suite à ces infractions, était supprimé. Et la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient se diriger vers un véhicule, notamment les voiturettes, comme vous dites, à l'époque où il n'y avait pas de permis. Maintenant, il y a quand même un permis obligatoire concernant la conduite de voiturette. Alors, qu'est-ce qui risque? En tout cas, moi, depuis le début de l'année, ce que je peux vous dire, c'est que les infractions, en tout cas les multirécidivistes, et c'est-à-dire ou récidivistes à partir de 2 fois, la plupart du temps, son véhicule sera confisqué. Parce que la loi permet que pour les récidivistes, il y a 2 droits, ce que je disais tout à l'heure, l'annulation du permis. Alors vous le dites, effectivement, il n'y a pas de permis, en tout cas pas celui qu'on peut considérer comme un permis B, mais il y a en tout cas la confiscation obligatoire du véhicule. Et la confiscation obligatoire du véhicule, y compris pour une voiturette, depuis le début de l'année, je demandais aux forces de sécurité intérieure de le faire, et quand il passera au tribunal, son véhicule sera confisqué judiciairement, c'est-à-dire qu'il ne l'aura plus. Et là, vous touchez quelque chose d'important, c'est qu'au-delà du permis, l'annulation, je pense que ça pose un préjudice pour tout le monde. Mais ce qui arrive aussi, que le parquet décide de faire, c'est que notamment quelqu'un qui a un véhicule et qui est en état de récidive et qui a un crédit sur la voiture, ce qu'on peut faire, c'est confisquer immédiatement le véhicule, c'est-à-dire qu'il continuera à payer son crédit pendant des années. Il n'aura plus le véhicule et le véhicule sera remis soit au domaine ou soit à un service de sécurité intérieure pour l'exercice de leur mission. Donc vous voyez, il y a une double sanction et c'est tous ces risques qui, aujourd'hui en tout cas, je voulais parler avec les auditeurs parce que je pense que les gens n'en ont pas conscience du risque encouru par rapport à toutes ces infractions.
Jean-Paul,
vous avez entièrement raison, monsieur le procureur, parce que les gens qui ont conduit avec un permis normal, avec une voiture normale, qui ont perdu leur permis, se penchent sur la voiturette, évidemment, mais continuent à boire. Alors ça, c'est une honte. Donc, confiscation du véhicule, c'est une double peine, et ça, moi, je suis pour à 100%.
Jean-Paul, merci beaucoup de votre intervention.
Je vous en prie, bonne journée à vous.
Bonne journée à vous, et vous aussi, vous pouvez intervenir, et c'est toujours au même numéro.
05 55 52 37 38.
Madame Ximénez, directrice de cabinet des services de la préfecture, nous avons eu un autre message sur la page Facebook, le message de Margaret, qui nous dit « Tolérance zéro pour l'alcool et les stupéfiants au volant. Prendre le volant, bien entendu, c'est utile, nécessaire et aussi plaisant. Pour autant, il ne faut pas oublier que conduire, c'est avoir une responsabilité, puisque les risques d'accident sont connus pour soi comme pour les autres. Il suffit de quelques instants pour détruire 2 vies. Alors, ceux qui estiment qu'avec 2 apéros ou autres, on ne risque rien au volant, point de suspension. » C'est vrai que les contrôles du week-end prouvent bien les dégâts de l'alcool et des stupéfiants et la responsabilité aussi de ceux qui laissent partir les bons copains ivres. Eux aussi devraient être sanctionnés. C'est vrai que les amendes sont chères, mais combien vaut la vie en fauteuil roulant?
Effectivement, bien, on ne peut que se féliciter de ce type de réflexion qui est tout à fait un discours et un slogan que nous pourrions reprendre dans nos axes de prévention de prévention routière. Effectivement, il faut penser aux conséquences de la mortalité en Creuse au niveau national, mais aussi des accidents. Parce qu'on parle de la réduction de la mortalité. Chaque fois qu'on prend des mesures, et en 40 ans, toutes les mesures de sécurité routière qui ont été prises par voie de droit, avec les sanctions qui ont pu être indiquées sur la vitesse, sur la consommation d'alcool, ont fait qu'on a gagné 320 000 vies sur le territoire national. Donc, toutes les mesures qui permettent effectivement de faire prendre conscience, et c'est le rôle qui est le mien ici en Creuse en tant que chef de projet de sécurité routière, toutes les mesures de prévention que nous pouvons mettre en œuvre pour faire prendre conscience des conséquences des accidents pour les familles, parce qu'il y a l'accidenté, il y a le conducteur, mais il y a aussi toute sa famille, et c'est important que nous puissions continuer ces actions de prévention et bien faire prendre conscience des risques de l'alcool et la consommation excessive de stupéfiants qui représentent 15% des accidents en Creuse.
La priorité à vos appels. Bonjour Dominique.
Et bonjour.
Bienvenue à vous également, nous vous écoutons.
Oui, donc je voulais poser une question à monsieur le procureur. Je connais bien madame la directrice de cabinet, elle me connaît bien aussi. Donc je voulais savoir concernant les gens qui prennent des médicaments où il y a des produits illicites dans les molécules et qui les prennent régulièrement. Donc ces gens-là ont un permis, ils conduisent, qu'est-ce qu'ils risquent ?
Monsieur le procureur.
Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça dépendra le taux, le seuil de détection. Alors, si vous parlez par exemple de morphine ou éventuellement de produits de substitution, hein, méthanol, Subutex, etc. Là aussi, le laboratoire d'analyse fera la part des choses entre les deux. Et après, si en tout cas c'est de la morphine et qu'on se rend compte qu'il n'y a que de la présence de morphine et que monsieur donc a conduit, bien évidemment, la réponse pénale sera tout à fait différente. Elle pourra en tout cas être justifiée. Mais on parle là, généralement, je vous donnais quand même un ordre d'idée. La plupart, c'est le cannabis hein, qu'on trouve. On trouve de plus en plus maintenant d'héroïne et de cocaïne, et on retrouve de plus en plus de conducteurs qui ont parfois les trois. C'est-à-dire cocaïne, héroïne et cannabis. Donc le cas que vous évoquiez, effectivement, on en prend en compte. On parle aujourd'hui aussi, comme vous le savez certainement, le THC à moins de 0,2%. Là, il faudra légiférer là-dessus, mais encore une fois, je ne pense pas qu'avec 0,2% avec le THC, la personne ne sera pas positive.
Voilà la réponse, Dominique.
Merci beaucoup. Merci.
À votre service. Merci. Ça bouge beaucoup du côté du 05 55 52 37 38. La suite de vos appels dans une poignée de secondes.
Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges. Et sur granit-marbre-mourier.fr.
France Bleu. Ma vie en terre creusoise sur France Bleu Creuse, 6h52, 12h52 et sur le web.
Rester en Creuse et vivre de son métier dans un petit village, c'est vraiment un choix de vie. Une fois que ça marche, c'est pareil gagné.
C'est une minute ensemble, creusois ou non, pour les inconditionnels.
Tout est à 3h. L'Atlantique, Paris, Lyon, sa situation, elle ne peut être que séduisante parce que très accessible.
La Creuse, on la vit, on en parle ensemble au quotidien sur France Bleu Creuse et on en est fiers.
Bonjour, c'est Lambert Wilson et c'est en tant que citoyen préoccupé par l'état de la planète que je vous parle aujourd'hui. Face aux enjeux environnementaux, il y a deux façons d'envisager l'avenir. Le fatalisme, après moi le déluge, ou la détermination qui pousse à agir. Avec Greenpeace, j'ai choisi la détermination. Et même lorsque nous ne serons plus de ce monde, il y a un geste simple et concret, un geste d'espoir. Faire un leg à Greenpeace, c'est agir au-delà du temps pour cette terre à qui nous devons tout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur internet leg.greenpeace.fr.
Le dossier du jour, avec Granit et Marbre Mourier, tout pour le cimetière. Fabricant depuis 1860, exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Le dossier du jour avec nos invités du jour, Pascale Ximénez, directrice de cabinet des services de la préfecture de la Creuse, Bruno Sauvage, procureur de la République, est vraiment, sincèrement, la priorité à vos appels concernant la consommation parfois élevée d'alcool et de stupéfiants au volant. Bonjour Rolande.
Oui, bonjour. Alors, je vous appelle pour vous dire que moi, je suis... Bon, les gens qui ont envie de boire, je ne leur interdis pas de boire, qui boivent chez eux, qui boivent au restaurant, mais qui restent sur place, qui boivent chez des amis, mais qui ne reprennent pas leur voiture. Alors, après, en ce qui concerne la confiscation des véhicules, je pense qu'il ne faudrait pas attendre une récidive pour confisquer le véhicule, parce que je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui ont une suppression de permis de conduire et qui continuent à utiliser leur voiture. Et je trouve ça inadmissible.
Qui répond ? Bruno Sauvage, Madame Ximénez, les deux ?
Si vous voulez, sur un plan administratif.
Sur le plan administratif, il y a un cadre réglementaire qui est précis. Votre réponse est intéressante, parce qu'en fait, ce que vous proposez, c'est un durcissement de la réglementation pour prévenir encore plus les risques sur la route. Cela dit, l'état aujourd'hui de la réglementation ne permet pas à la première sanction d'immobiliser un véhicule. On distingue dans les sanctions, en tout cas au niveau administratif, des seuils en fonction de la dangerosité. Si je prends l'exemple de la vitesse, il y a différents seuils. Si vous êtes entre 0 et 20, si vous êtes entre 20 et 40, si vous êtes au-delà de 50, parce que les risques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et l'immobilisation et la confiscation du véhicule, qui est souvent d'ailleurs une décision qui est confirmé par le procureur ou proposé par la justice, est une échelle de sanctions en fonction du risque qui a été pris par un conducteur. Voilà la réponse, peut-être pas tout à fait satisfaisante, que je vous indique, mais nous retenons l'idée, parce que si elle prospère, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait proposer, effectivement, si les risques venaient à être encore plus supérieurs au niveau national.
Bruno Sauvage.
Oui, excusez-moi,
madame. Ça appelle une double réponse. La première, si la personne a eu une conduite, enfin son permis suspendu suite à une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, donc c'est-à-dire que si jamais elle reconduit qu'elle est prise par les policiers ou les gendarmes, ça sera une conduite malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, ce qui veut dire que l'infraction est encore plus grave qu'un défaut de permis de conduire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, concernant la confiscation, la loi permet dans certains cas de confisquer dès la première infraction, mais pas toutes les infractions. Je vais prendre un exemple. Un défaut d'assurance, on peut immobiliser et confisquer le véhicule. Concernant l'alcoolémie, il faut que la confiscation est obligatoire dès l'instant où on est effectivement en récidive. En revanche, ça ne veut pas dire que même lors de la première fois, qu'il ne peut pas y avoir une immobilisation administrative ou judiciaire du permis de conduire pour empêcher effectivement la personne de conduire. Mais encore une fois, on applique la loi et la loi nous dit effectivement confiscation obligatoire en cas de récidive.
Mmh. C'est bon, Roland ?
Oui, et si je peux juste rajouter une petite chose, alors qui va peut-être vous faire sourire ou rire, je ne sais pas. Je pense que quand on est contrôlé pour l'alcoolémie, hein, on devrait avoir le droit en tant que conducteur, avec tout le respect du monde, hein, mais de demander à l'agent qui nous contrôle de souffler lui également dans le ballon. Voilà. Parce que je pense pas que ce soit manquer de respect, mais je pense qu'on aurait des surprises. Certaines fois, on aurait des surprises. Voilà.
Eh bien, Roland, cette émission, elle est faite pour s'exprimer et vous l'avez fait.
Voilà.
Merci beaucoup de votre intervention. Faites vite, hein, maintenant. Je vois que ça sonne de tous les côtés. 05 55 52 37 38. Si vous souhaitez intervenir, il vous reste, allez, on va jouer un peu les prolongations. Encore 10 minutes.
05 55 52 37 38. We'll be right back.
j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude de sentir mon profond de solitude. Je ne m'apercevais pas. Tu étais derrière chacun. Sur la route toute la fin de journée, je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte.
Faire bien soi-même.
Sur la route de Palmas, les dernières minutes en compagnie de Pascal Ximénez, directrice de cabinet des services de la préfecture, Bruno Sauvage, procureur de la République. Il vous reste quelques minutes encore pour intervenir au 05 55 52 37 38. Bonjour Xavier.
Bonjour. Moi, je voulais réagir par rapport à l'auditrice d'avant, là, qui a demandé par rapport si on avait le droit de faire souffler les gendarmes.
Oui, allez-y, nous vous écoutons.
Parce que moi, j'en connais quelques-uns. Là où je travaillais avant, c'est pas forcément sur la Creuse, c'était sur la Haute-Vienne, sur Bessines, je vais vous dire. Et j'en connaissais pas mal, là où je travaillais avant, qui s'arrêtaient boire le canon le vendredi, en service. Ils s'arrêtaient avec la voiture et ils sont pas toujours repartis à jeun. Et j'en connais qui se sont fait arrêter en partant de l'endroit où ils étaient en train de boire par ces gendarmes-là. Et les gendarmes ont haussé le ton et n'ont jamais voulu souffler. Et la personne en question a pris un retrait de permis et voilà. Donc je voudrais savoir si les lois marchaient dans les deux sens. Quoi.
Bruno Sauvage, procureur de la République.
Ah, je vais être bref, monsieur. La loi s'applique à tous. Laissez-moi répondre, vous me posez une question, laissez-moi au moins le temps de vous répondre. La loi s'applique pour tous. Si, en tout cas, pour l'instant, depuis que je suis ici, j'ai pas eu à en connaître, mais je peux vous certifier, et je pense que si j'avais un gendarme ou un policier qui était pris en état d'alcoolémie, j'aurais la même réponse pour tout le monde, avec les trois critères qui doivent guider mon action, c'est-à-dire les circonstances de l'infraction, les éléments de personnalité, et les garanties de réinsertion sociale et professionnelle de la personne. Mais personne n'est à l'abri, et tout le monde pourrait être touché, vous de parler des policiers, bien d'autres professions qui sont aussi connues, en tout cas, j'aurai le même œil attentif à la réponse pénale que je peux apporter aux autres concitoyens.
Oui, mais qui se permettrait qui appliquerait la loi sur les gendarmes? Parce que personne ne va arrêter les gendarmes pour les faire souffler, ou je vais vous dire honnêtement, même le contrôlant stupéfiant, est-ce qu'ils sont contrôlés tous les mois, tous les 3-4 jours, pour savoir s'ils fument?
Après, il y a Alors là, vous abordez un sujet qui peut être aussi au niveau interne, hein, monsieur. Il y a aussi le commandement qui, parfois, peut faire des contrôles par rapport au personnel eux-mêmes. Et je peux vous dire que ça arrive aussi, hein, lorsque éventuellement un gendarme ou un policier devrait prendre le volant et que son commandement s'aperçoit qu'il pourrait avoir les signes de l'ivresse. Eh bien, en interne, il y a aussi les sanctions qui peuvent être prises. Et encore une fois, s'il y avait quelqu'un ou un gendarme ou un policier ou une autre profession que vous indiquez qui était impliqué dans un accident de la route et qui avait de l'alcool, je ferais mon travail de poursuite comme tout le monde, parce que je représente l'intérêt général.
Voilà la réponse, Xavier. Merci également à vous de votre intervention. 05 55 52 37 38. Il vous reste encore un peu de temps pour réagir. Il y a vos appels, mais aussi, Madame Ximénez, les messages sur la page Facebook de France Bleu Creuse. Un autre message: en Creuse, trop de répression. Pas une journée sans contrôle. En revanche, on se fait voler, on ouvre les barrières des bêtes dans certaines rues des petits bourgs, il y a la comédie fréquemment, et là, personne. Alors décidément, on peut avoir l'impression qu'on est un département extraordinairement contrôlé.
Oui, alors c'est
j'ai bien dit l'impression. Hein.
Oui, j'ai bien retenu votre vocabulaire, et c'est là, ça va être ma réponse. C'est-à-dire que c'est une question de perception. En Creuse, il y a les contrôles qui doivent être menés, qu'ils soient menés sous l'autorité de Madame la Préfète ou de Monsieur le Procureur. Il faut se rappeler quand même que l'année dernière, nous avons eu 9 morts sur les routes. Cette année, nous avons 4 tués, là, au 17 octobre. Et que ça justifie, ça permet de dire qu'il y a besoin, effectivement, que les contrôles soient mis en place en combaison avec les actions de prévention. Donc, les plans de contrôle ne diminueront pas. Ils sont faits aussi avec toute la pédagogie nécessaire. Les forces de l'ordre, lorsqu'ils contrôlent un conducteur, fait aussi son action de pédagogie et ne va pas directement à la sanction s'il estime que l'action de pédagogie doit primer sur l'action de sanction. Mais néanmoins, lorsqu'il y a une infraction qui est commise, ils effectivement appliqueront la sanction que prévoit le droit.
Un tout dernier appel pour ce matin déjà. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Donc moi, je voudrais témoigner un petit peu par rapport à tous ces fléaux que l'alcool détruit toute personne et toute famille. Nous-mêmes, on a été victimes. Moi, j'ai perdu mon concubin d'un accident de la route dû à un chauffeur routier qui était alcoolisé. Et c'est très dur à vivre.
Monsieur le procureur, quelques mots avec Michel.
Alors justement, c'est par ce... Alors désolé madame, en tout cas mes condoléances pour la perte. Et ça me permet de rebondir sur un point. Je peux vous certifier qu'en audience publique, alors j'invite tous les auditeurs, les mercredis à 14h, c'est ce qu'on appelle la COPJ juge unique, hein, l'audience juge unique. La plupart du temps, la moitié, c'est des infractions routières. C'est ouvert au public, tout le monde peut venir et vous verrez qu'on entend toujours les mêmes discours, qu'on soit pris entre 0,40 mg et parfois à plus d'un milligramme. Toutes les personnes nous vous diront, mais j'étais complètement capable de conduire. Et j'en profite pour vous dire, madame, soyez persuadée qu'en tout cas, le parquet, quand il est à audience, il représente l'intérêt général et c'est les audiences et les dossiers les plus terribles. Je vais vous donner un autre exemple. Dans une autre affectation, j'avais eu à juger, en tout cas à requérir, un jeune homme de 19 ans, et on peut tous éventuellement s'identifier. Un jeune homme de 19 ans qui fume un joint avant de prendre le volant, qui est un peu en alcoolémie, contraventionnel, donc j'en reviens, cumule alcool et stup. Il roule à 140 km/h au lieu de 90. Il est très peu connu de la justice. Il n'a qu'une mention à son casier judiciaire. Et bien évidemment, il va avoir un choc frontal et il va tuer deux personnes en face, deux personnes de 40 ans, en choc frontal. Et ces audiences, c'est les plus terribles. Parce que il y a deux parties. Quelle que soit la peine qui va être requise et prononcée par le tribunal, de toute façon, par la famille de la victime, ça sera toujours insuffisant. Et de l'autre côté de la barre, on a un jeune homme de 19 ans où pour les parents, ils vont dire que c'est une erreur de jeunesse. Une erreur de jeunesse, certes, il a tué quelqu'un, mais ça reste un accident. Un accident de la route, c'est pas un homicide volontaire, c'est un homicide involontaire, mais il y a des circonstances aggravantes. Et dans le cas d'espèce, la personne avait été condamnée à 5 ans d'emprisonnement ferme. Ça permettra aussi, effectivement, de faire toucher du public les risques encourus. Et vous avez raison, madame, c'est un drame de la société. Et le but de notre intervention à tous les deux, aujourd'hui en termes préventifs et répressifs, peut-être pour ma part, mais à terme, on va dire, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, prévenir pour ne pas avoir à réprimer. Et ben, c'est très bien votre intervention. Et j'incite vivement les auditeurs à venir parfois à certaines audiences publiques pour voir comment ça se passe, les sanctions qui sont prononcées, et en tout cas que ça touche toute la société.
Oui, tout à fait. Bon, après, je suis tout à fait d'accord avec les condamnements. Et ce que je dis surtout, c'est que heureusement que nous avons la gendarmerie sur des actions ponctuelles, parce que bah, malheureusement, ça serait un désastre.
Michel, merci beaucoup de votre intervention. Bravo pour votre courage. Bonne journée
merci
à vous.
Beaucoup. Au revoir.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Nous arrivons au bout en guise de mot de la fin pour aujourd'hui. Pascale Ximénez, directrice de cabinet des services de la préfecture. En quelques mots.
En quelques mots, écoutez, on a donné un slogan tout à l'heure, boire ou conduire, il faut choisir. Je crois que interdire la consommation de stupéfiants, interdire la consommation d'alcool, c'est une liberté de comportement, de choix. Par contre, lorsque l'on boit, lorsque l'on consomme du stupéfiant, on ne conduit pas, on se fait conduire.
Bruno Sauvage, pardon, monsieur le procureur.
Alors juste deux mots, soyez vigilants tous sur les routes, pour la sécurité de tous. On peut tous être touchés de près ou de loin par un drame familial. Et je pense aussi, par rapport à la Creuse, le permis de conduire est obligatoire, donc conservez-le et soyez prudents.
Vous reviendrez à la rencontre des auditeurs ?
Bien volontiers.
Bien volontiers.
Alors à très bientôt.